Off the record.
Off the record.
Saviez-vous qu'il existe un homme belge à la fois musicien, producteur, chroniqueur à la RTBF et parfois même ventriloque à la radio ? Oui, messieurs, dames, cet homme existe et il s'appelle Benjamin Skaus, un siphonné schizophrène qui est également patron du label Freaksville, un village de barge où on retrouve depuis presque 20 ans des cow-boys dépressifs, des robots chanteurs et des rappeurs mutants. C'est donc cette sacrée histoire belge qu'on vous raconte aujourd'hui dans ce nouvel épisode d'Off the Record, une série de podcasts proposée par la Fédération des labels indépendants francophones et qui revisite le parcours de ces irréductibles patrons et patronnes de labels belges derrière certains de vos disques préférés. Sa vie, ses amours et ses emmerdes discographiques, il nous raconte tout ou presque dans ce nouvel épisode d'Off the Record. Allez, comme disait Barry White, let the music play. Eh bien Benjamin, voilà, on se retrouve après ce générique pour faire ton portrait. Et alors, merci d'abord d'être là avec nous. Petite question pour commencer, pour un petit peu retracer ton histoire et donc à travers toi celle de ton label Freaksville. J'imaginais en fait qu'on serait sur un LinkedIn géant et qu'on devrait donner un poste à ta carrière. Pour commencer, comment tu définirais toi si tu devais créer un compte LinkedIn Benjamin Skaus aujourd'hui ?
Je dirais quand même avant tout artiste et puis comment est-ce qu'on dit, manager de label. C'est un peu mes deux fonctions à l'heure actuelle, quoi.
Donc dans cette série Off the Records, l'idée c'est, comme on l'aura compris, de retracer la vie d'un label. Et donc ta carrière qui a commencé il y a 25 ans, avec une rapide soustraction, on se rend compte que tu as commencé en 1998. Et donc à ce moment-là, j'aimerais savoir, on est avant même la création de Freaksville, qui va arriver quelques années après, qu'est-ce qui au départ, toi, te donne envie d'être musicien ? Comment ça part ?
Alors ça part simplement du fait que j'étais un adolescent assez timide, que je passais beaucoup de temps dans ma chambre à dessiner, à faire des comics, des fanzines, etc. Et en parallèle à ça, j'avais acheté un petit appareil 4 pistes cassette. Je suivais des cours de percussion à l'académie de musique. Et tout ça a fait qu'à un moment donné, comme j'avais peu d'activité finalement, etc. Je passais beaucoup de temps aussi, mon père avait un vidéoclub. C'était une activité assez ludique qu'il avait, donc je regardais beaucoup de films aussi. Donc en vidéoclub, souvent des films un peu de série B ou des films de genre. Et puis à un moment donné, tout ça m'a inspiré vers... Et j'ai commencé à bricoler, c'est vraiment du bricolage, quoi. Donc je viens vraiment de ce qu'on appelle maintenant de la bedroom pop. Cassette 4 pistes, oui. Et donc, comme j'étais quand même un musicien, on va dire, pas non plus super expérimenté, j'avais des petits synthétiseurs avec des arrangements préfaits pour jouer ma musique. Donc j'ai quand même gardé un peu cette touche dans mon travail après, de bricolage, de do it yourself, quoi.
Et donc du coup, si on prend ta vie comme une série de tableaux de Picasso, il y a différentes périodes. Donc, je pense pas que tu aies des périodes roses ou bleues, mais encore que peut-être. Ta première période, donc c'est celle de musicien qui précède la création de Freaksville, qui arrive vers 2006-2007, si mes comptes sont bons. Dans cette première période, tu te concentres sur toi et comment ça se passe en tant que musicien ? Parce que c'est intéressant qu'on en parle. C'est vraiment la fin de l'âge d'or du CD. Les artistes arrivent encore à vivre à peu près de leur musique, mais l'Internet arrive. Donc, tu es vraiment à la jonction entre les deux. Comment tu vis ces premières années, toi, en tant que musicien indépendant ?
Alors, de manière assez aventureuse et riche, quand même. Là, j'étais calé quand même j'ai signé très tôt avec une maison de disques, je devais avoir 18 ans, toute petite maison de disques indépendante, qui m'a donné quand même un peu de moyens pour aller en studio, parce qu'à l'époque encore, j'en souviens pas, mais on devait aller en studio, on repartait avec une cassette audio. Il n'y avait pas moyen de graver des CD, enfin, il y avait moyen, mais ça coûtait très cher. Et en parallèle à ça, est venu effectivement se mettre le début du net avec les premiers sites, etc. Et moi, j'y ai vu tout de suite une sorte de liberté, mais qui était quand même un peu cadenassée par le fait que j'avais quand même un contrat avec une maison de production qui, elle, il y avait quand même toute une série de contrats, de règles à respecter. Et donc, ma liberté était quand même un peu cadenassée. Et assez vite, ça m'a ennuyé parce que je voyais dans l'Internet qui arrivait quand même aussi une manière de diffuser sa musique. Un exemple, en parallèle, j'avais travaillé une fois avec, c'était Universal ou Sony, non, EMI à l'époque. Et je me souviens avoir envoyé un truc à MP3 par mail et c'était un drame, quoi. C'était vraiment, fais pas ça. Enfin, c'était vraiment à l'époque, la copie pirate. tu vois, avant les DVD, t'avais des jingles, on va te foutre la flic et tout. Moi, je voyais plutôt une chose assez créative, quoi. Et donc, j'ai effectivement grandi, et le label aussi, ma carrière, avec l'Internet, quoi.
Peut-être qu'on peut écouter un morceau de cette période qui, dans mon souvenir, est plutôt marqué par des comptines, mais des chansons plutôt inspirées par le blues, hein. Au départ, on est quand même plutôt sur de la folk blues. dans le sens très strict du terme. Enfin, quel titre tu aimerais qu'on écoute de cette période?
Alors vraiment la période où j'ai commencé vraiment à être créatif avec le web, avec des sites en flash, avec beaucoup d'animations. J'ai commencé à animer des collages. Parce que parallèle à la musique, j'ai continué à faire des dessins, des collages, et je trouvais que les sites c'était vraiment un outil pour pouvoir développer aussi le visuel. Il y a cet album Etanque que j'ai enregistré vraiment encore une fois dans un qui n'était pas en studio là, c'est dans mon grenier. J'avais aménagé en un studio analogique, encore avec des bandes. J'ai plus un 4 pistes cassette, mais des bandes un demi pouce, je crois. Mais je m'étais servi de la technologie quand même pour mixer, pour faire les sites. Et je pense que cet album-là, c'est des mini-vignettes. À l'époque, on avait d'ailleurs critiqué ça en disant c'est trop court ce morceau. Quand je vois maintenant les formats sur Spotify et tout ça, on est revenu à des formats d'un minute 40.
Oui, t'étais visionnaire.
Donc finalement, j'allais à l'essentiel avec ce disque. Ça pourrait être sympa de réécouter un extrait.
Extrait. Alors, on parlait de tes débuts et de ta signature agréable, mais pas trop, mais pas top, comme on disait sur un label indépendant. À quel moment tu te dis que tu vas passer le cap et que tu vas devenir à la fois musicien et patron de label? Quand est-ce que ça germe, en fait?
Alors, c'est assez progressif. En fait, j'ai commencé à coproduire mes disques avec le label indépendant qui s'appelait Soundstation, qui n'existe plus, parce que j'avais envie justement de sortir de ce côté de bedroom pop et d'aller vers d'autres choses, de rencontrer d'autres musiciens, et j'avais des projets un peu plus orchestrés, parce que j'avais quand même aussi à un moment donné cette envie de entraver un peu l'harmonie, l'arrangement, etc., de mettre des cordes, d'essayer des choses. Et donc j'ai commencé à coproduire mes disques, donc à investir ce que j'avais gagné dans les précédents ou des concerts là. Et donc là j'ai dû, en tant que coproducteur, commencer à gérer ce que je n'imaginais pas, mais qui était la partie, on va dire, économique. Et donc, le coproducteur aura des charges aussi pour réaliser sa quote-part. Donc, j'ai commencé comme ça et j'ai coproduit 2-3 de mes albums. Mm-hmm. Ça, donc, quand le contrat s'est arrêté, simplement, je me suis dit, on peut le faire nous-mêmes, en fait. Il n'y a pas besoin...
Il est difficile de te rattacher à d'autres exemples d'hommes à tout faire, parce que c'est l'une de tes caractéristiques, et on va voir ça avec ton profil LinkedIn qu'on va dérouler petit à petit. Il y a une personne, en fait, à laquelle moi je pense tout de suite quand je pense à Frixville et à Benjamin Scoss, c'est Bertrand Virgala avec Tricatel. Donc du coup, des profils de musiciens, producteurs et patrons de labels. Ce qui, en fait, pourrait sembler être une logique, c'est-à-dire que un musicien peut devenir patron de label parce qu'il connaît la musique et donc du coup peut avoir des goûts artistiques et des conseils intéressants pour les artistes. Et c'est de moins en moins le cas, en fait. Voilà. Et en fait, il se trouve que vous avez quasiment commencé en même temps et que votre parcours est similaire sur bien des points. À quel moment, toi, tu te dis que, contrairement à d'autres musiciens qui sont centrés sur leur œuvre et sur leur création et qui, du coup, sont pas dans un mode égoïste, mais plutôt centrés sur leur art, tu vas commencer à faire plus que ça. D'ailleurs, tu as une carrière qui est ininterrompue depuis 98, mais donc tu travailles sur d'autres albums, tu gères aussi la partie administrative, finance, sans rentrer dans les tableurs Excel, mais tu gères aussi tout ça. À quel moment tu te dis que tu vas être dans la dévotion plus que uniquement dans toi et ton œuvre, quoi?
En fait, c'est la résultante de ce que j'avais envie de faire. En fait, moi, je suis plutôt quelqu'un qui aime le studio, que je considère comme un laboratoire. Et c'était vraiment cette partie-là. J'ai toujours conçu dans ma tête que les concerts, c'était un peu le produit dérivé du spectacle, alors que c'est l'inverse à l'heure actuelle. Mmh. Je pense que Bertrand Burial, c'était un peu comme ça. Je pense que c'est quelqu'un aussi qui, à un moment donné, était vraiment un producteur, réalisateur, musicien de studio, plus qu'un performeur sur scène. Et donc, naturellement, bah voilà, à un moment donné, tu ne sais pas non plus qu'on vient de te chercher pour produire tout le temps des albums pour d'autres. C'est arrivé plusieurs fois, mais donc en attendant, bah, moi je me suis dit pourquoi pas créer notre propre laboratoire.
Quoi. On va tout de suite passer à une séquence clé, c'est la date clé. La date clé, donc, c'est 2006 pour vous.
Oui.
Donc 2006, Frixville, ça vient d'où ?
Frixville, ça collait bien avec ce qu'on voulait faire parce que c'est vraiment ouais, une ville, un village Frix. En plus, on mélangeait, comme tu disais tout à l'heure, un peu de country, du blues, de la musique pop, de la noisy pop. Enfin, on mélangeait toutes sortes de trucs et donc ça donnait un côté un peu... Bah, une troupe un peu bizarre comme ça. Quoi.
Mais du coup, on revient à cette notion de collage. Finalement, tu as eu envie de coller des personnes ensemble pour t'enlever la pression et créer un peu ce côté Barnum qui colle bien au nom de Frixville, finalement.
Enfin, oui, tout à fait, oui, c'est ça.
Et du coup, quelle est la première signature de Frixville ? Quel disque arrive en premier dans les bacs ? Parce qu'à l'époque, il y avait encore des bacs.
Il y a trois disques qui arrivent en même temps, en fait. Parce qu'on s'est un peu fixé le... Il y a Marc Moulin, qui est quelqu'un qui aimait beaucoup, que j'aimais beaucoup, à qui j'avais fait de la radio, qui est un musicien extraordinaire. Lui avait un label qui s'appelait Kamikaze à l'époque. Et quand je lui ai parlé de Frixville, il m'avait raconté cette histoire qui, lui, il a sorti que trois disques d'un coup et puis c'était fini avec une énorme fête somptueuse et tout. Ça m'a inspiré. Je lui ai dit, bah, sortons-les. Et donc, quasi en deux mois, on a sorti ces trois albums qui est bon, Sophie Gallet, qui était plutôt un disque de folk intimiste. Un disque qu'on a enregistré sur le micro de. Dans GarageBand, à l'époque c'était un peu innovant, mais avec le micro de l'IMAC qu'on avait mis au milieu d'une pièce, qui s'appelle L'histoire de William Buckner. Et puis je dirais ce qui est vraiment le premier album Frixville tel qu'on peut le concevoir un peu dans l'esprit qu'on voulait, c'est Phantom featuring Jacques Duval en tease.
Est-ce qu'il y a un label à cette époque qui, pour toi, fait référence ? Je pense à ça parce que je me rappelle une discussion avec les frères de Salawax qui me disaient que pour eux, c'est quand ils avaient créé Diwi, c'était Factory qui était la référence et on le voit bien dans leur code esthétique, leur manifeste graphique. Il y a Factory qui transpire un peu partout. Pour Frixville, est-ce qu'il y avait un label qui, pour toi, faisait, faisait acte.
Alors je me souviens à l'époque, on imprimait des tracts en photocopie, etc. Alors, toute personne ne comprenait rien, parce que non, on est quand même en 2006, on dit mais qu'est-ce qu'ils foutent ? Mais on expliquait que c'était une volonté, avec presque des tracts militants comme ça, c'était rigolo. Non, l'uniformisation de la culture, des choses du genre. Et dedans, on citait Sarava, par exemple, qui est un label un peu fourre-tout de Pierre Barou, qui est aussi un autre homme de studio et de Globetrotter. On citait Car Records, par exemple, de Calvin Johnson. On citait pas mal de choses, un peu, qui en fait sont des micro-labels, enfin plutôt des labels artistiques autour de personnalités fortes. Je dirais pas des gourous, mais des gens quand même qui inspirent quelque chose. C'était plutôt ça, nous, qui était notre influence, même si voilà, chacun avait ses marottes musicales. Hein. Par exemple, Pascal Schinz, mon associé, lui, est plutôt Factory Records, etc. Mais dans Freaksville...
Ça, c'est son côté graphique.
Voilà, c'est lui le graphiste, et c'est lui qui a amené aussi l'image et les photos de Freaksville. Et c'est déjà plus c'est déjà plus proche de cet univers-là, avec le noir et blanc, etc. Mais quand même, le label et l'esprit est très... très do-it-yourself, donc plutôt tous ces petits labels, Sarah Records aussi. Même si la musique n'est pas la même, il y a quand même cette chose-là du fanzine qui reste, quoi.
Mmh. Tu parlais de Phantom feat Jacques Duval, presque l'impression que c'est un peu votre Thriller de Michael Jackson, c'est-à-dire que c'est quand même l'album qui, bon, dans des proportions moindres, hein, Thriller a vendu moins d'albums que Jacques Duval.
Oui. Hein.
J'ai quand même l'impression que c'est le disque emblème des débuts. Peux-tu nous parler un petit peu de ce disque, parce que c'est un disque important dans la discographie, non ?
Oui, c'est un disque important parce que c'est la première fois qu'on a pu... Enfin, on a fait un disque sans vouloir le faire. Je m'explique, c'est qu'on est rentré en studio donc avec cette idée de...
Vous avez fait un disque à l'insu de notre plein gré, comme dirait.
Un peu à l'insu de notre plein gré, c'est-à-dire on est rentré en studio, on avait loué le studio 2 jours. On était dans une optique de jam, hein, d'essayer des choses. On se disait oui, ça allait peut-être faire quelque chose de chouette. Sophie s'est mise à la batterie alors qu'elle n'avait jamais joué de la batterie. Pascal a joué de la guitare, de la basse sur la guitare, et moi l'autre guitare. On a en une journée enregistré toute une série de choses qui se retrouvent telles quelles sur le disque. Et puis bah, Jacques Duval, lui, est venu le lendemain. Je sais pas, il avait des bouts de texte ou des trucs qui traînaient à gauche, à droite. À l'époque, il avait arrêté complètement sa carrière de chanteur, enfin même pas parler de carrière.
L'avait-il vraiment commencé ?
Non, il ne l'avait pas commencé, mais sur un malentendu, il avait quand même fait quelques albums. Et donc, il est venu en studio et je sais pas, comme ça faisait longtemps, il s'est mis à chanter ses textes, à les réciter, etc. Et waouh, ça a fait quelque chose, quoi. Et en 2 jours, le disque était là. Enfin, c'est comme une photographie, comme un Polaroid, en fait. On a fait la photo à midi au restaurant chinois avec Jacques, vraiment sur le départ. Il a toujours déjà, il faisait froid, donc il avait mis des moufles, etc. On a invité le patron du resto sur la pochette. Enfin voilà, c'est un disque qui est né comme ça, bricolé. Et donc on l'aime bien parce qu'on ne l'avait pas attendu, en fait. C'est un peu comme un enfant qu'on ne veut pas, finalement, qui arrive et qui est beau. Enfin, beau.
C'est Jacques Duval.
C'est un monstre, un joli monstre, on va dire.
Est-ce qu'à un moment, tu te dis qu'il peut y avoir quelque chose d'assez ludique et récréatif à engager quelqu'un qui n'est pas chanteur pour faire de la chanson à la Jacques Duval? 2007, on n'est pas du tout sur les mouvements musicaux de cet album. Voilà, à quel moment tu te dis que ça va être marrant de prendre le contre-pied total de l'époque?
Oui, c'était vraiment le contre-pied, puisque à l'époque, c'est vrai que quand on allait même avec ses albums auprès de maisons de disques ou d'autres distributeurs ou promos, vous ne comprenez pas, on était en plein renouveau de la nouvelle chanson française qu'on appelait à l'époque. On voyait débarquer des Renan Luce et divers artistes de style, donc nous on arrivait avec notre truc. Heureusement on avait MySpace, et je trouve que le disque a parfaitement collé avec cette plateforme. Il y a vraiment une conjonction des deux, et le disque a pas mal marché grâce à ça, c'est-à-dire que il s'est ouvert à l'international. Il y avait des plateformes aussi comme CD Baby qui arrivaient, bon le nom est peut-être... qu'ils ont arrêté maintenant de faire des CD, mais CD Baby, voilà, à l'époque, ça permettait de vendre le disque partout, et donc ça a permis d'ouvrir aussi vers autre chose que le territoire belge et français, comme souvent on avait avec un peu d'export et d'import ailleurs. Et je pense que le disque colle bien avec ça, parce que ça permettait, on était contacté par pas mal de gens, dont des producteurs américains, des artistes, qui à l'époque étaient vraiment sur MySpace et nous contactaient. Et des concerts aussi, on a fait quasi une tournée de, je pense que c'était 40 dates, uniquement via MySpace, qui est quand même...
Mais avec le recul, on a du mal à se rendre compte.
Oui, maintenant, plus personne ne répond à rien, hein, sur les réseaux sociaux, ou un pouce levé, mais... Donc voilà, c'était un disque finalement qui était un peu quand même dans l'époque, quoi, tout en étant à pied dehors, c'est ça qui est étonnant, quoi.
L'émission s'appelle Off the Records, et si on parle de recording, il y a le côté industrie, et tout de suite, on va voir ce qu'on va appeler la clé du succès. Donc la clé du succès chez Freaksville, j'ai l'impression que dans les premières années, c'est ce concept de fantôme. Donc un groupe, une sorte de backing band dont on ne sait pas trop qui est dedans. Bon, en fait, on sait qui est dedans, hein, c'est toujours les mêmes. Hein. Donc à savoir toi, Pascal, etc. Et du coup, il y a une trilogie de disques qui se crée, et jamais qu'on en parle, parce que du coup, le premier, donc, c'est avec Jacques Duval, vont suivre les Phantom Feat Marie France et Phantom Feat Lio, dans cet ordre, je crois. Est-ce que pour toi, c'est l'une des clés du succès de Freaksville, ce triptyque ?
Moi, je l'aime bien parce que c'est des gens qui étaient venus jouer avec nous lors de cabaret et qui tout de suite ont été surpris de voir aussi l'énergie qu'il y avait, ce qui se passait, enfin le côté un peu déroutant de l'affaire, quoi, parce que voilà, c'est des gens aussi comme Marie-France qui ont vécu quand même aussi tout un pan de l'histoire rock.
Peut-être qu'on peut expliquer en deux mots qui est Marie-France.
Bah, Marie-France est un peu une égérie, on va dire, en même temps elle était proche des New York Dolls et donc du mouvement rock, mais aussi de la scène du Palace, etc., et des cabarets comme l'Alcazar, donc c'est quelqu'un qui est hybride aussi, hein, par sa nature.
Du membre féministe aussi des Gasolines, il me semble.
Voilà, c'est ça. Donc, alors, étonnamment, quand on a sorti cet album, il y avait un petit regard d'intérêt pour le rock français à l'époque, hein, les bébés rockers, je ne sais pas si tu te souviens de cette vague-là.
Oui, mais là, toi, tu avais la même rockeuse, c'est pas mal.
Tous ces gens-là réapparaissaient, on va dire, réémergeaient de la culture, vers la culture pop dominante. Donc, on a un peu profité de ça avec ce disque. Mmh. Et oui, Phantom, oui, c'est vraiment en fait la trilogie Freaksville, mais la trilogie Jacques Duval aussi, parce que Jacques s'est fait plaisir aussi pour écrire des albums un peu différents pour ces deux interprètes fétiches qui sont Marie-France et Lio. Donc ça forme un ensemble en fait qui est en même temps intéressant en termes de chansons, pour ceux qui s'intéressent à la chanson française, et pour le label, pour le côté rock, bizarroïde du rock belge, quoi.
Commercialement, ça se traduit comment, cette clé du succès ? J'aime bien cette expression, clé du succès. Commercialement, ça veut dire quoi ? Je ne vais pas te demander de sortir des tableurs Excel, mais est-ce que ce sont des vrais succès discographiques ou est-ce qu'on parle plus de succès médiatiques ? Et finalement, avec le recul, toi, qu'est-ce qui est le plus important ? Les ventes ou l'estime des disques que tu as produits ?
Alors ça, on revient sur des choses quand même extrêmement comptables de boutiquier. En fait, on ne s'est jamais considéré comme une structure où on devait avoir beaucoup de volume, en fait. Mais par contre, je pense, comme d'autres labels indépendants, on est attentif aux coûts de production et aux marges aussi qu'on fait, etc. Et donc, parce que vendre un disque au plus grand nombre coûte très cher en termes de mise en dispositif, en pub, en marketing, etc. Donc ici, on fait des disques quand même qui sont relativement artisanaux et on aime ça et on essaie de les vendre, on va dire, à un fan club qui s'élargit un peu. Donc on n'a pas la prétention et la structure pour mener autre chose. D'ailleurs, si un de ces disques avait rencontré un succès, on va dire, grand, on aurait dû travailler comme d'autres labels l'ont fait avec des structures plus grosses pour nous accompagner en service, quoi. Là, par exemple, avec le Lio, on a eu beaucoup plus de mise en avant du disque, le Phantom featuring Lio. Mm-hmm. Mais à l'arrivée, je veux dire, beaucoup plus de frais aussi. Donc, il a aussi bien marché si, proportionnellement que les autres, ou aussi mal marché, ça dépend comment on voit. Parfois, c'est un peu frustrant de se dire qu'on n'a pas autant de moyens, autant de canaux de diffusion que des structures plus grosses, mais voilà. Les gens sont quand même là derrière pour suivre.
Tu parlais de Lio, donc c'est un disque qui sort en 2009 et qui reste avec le recul excellent et qui est très frais. Dans mon souvenir, il a été enregistré à Liège, pareil, de la même manière que les autres,
oui.
En très peu de jours. J'ai souvenir d'une cave très froide, enfin en tout cas la pochette elle donne l'impression qu'on est vraiment dans une sorte de bad cave semi-gothique. Ce disque-là, il est important pour toi ? Dans la rencontre avec Lio, dans la tournée qui a suivi, je me souviens, je pense qu'à un moment, vous apparaissez dans un épisode de Striptease.
Ouais.
Donc j'ai l'impression que là, il y a quand même une médiatisation qui est offerte par la présence de Lio. Est-ce que ça vous a aidé à grandir ? Est-ce que ça vous a aidé à toucher un public plus large, par exemple ?
Je ne pense pas. Enfin, je ne pense pas. Je pense que c'est toujours un peu déroutant. À l'époque, il faut voir aussi qu'on est moins en 2009. Pour les anglo-saxons, ça se faisait plus, mais quand même du côté de la musique pop française ou belge, c'est un peu trop décloisonné pour eux, si tu veux, un peu trop d'avoir Lio qui évoque quand même la chanteuse pop, ex-chanteuse pop teenager, devenue une chanteuse de variété, on va dire, et un groupe aussi extrême quelque part que Freaks. Je ne suis pas sûr que le rassemblement, à part ceux qui comprennent que Lio était vraiment une artiste pop rock, qui sont les fans, et je suis pas sûr que le grand public saisit le lien, quoi.
Mais toi, toi, le lien entre Lio et les Ramones, tu l'as vu sur ce disque, non, je suppose?
Oui, bien sûr, oui, tout à fait. Je trouvais ça intéressant, justement, et puis c'était son envie aussi d'essayer ça, quoi. Je crois que c'est quelque chose qu'elle avait toujours eu envie de faire, en fait. C'était un disque de rock un peu bricolé aussi, fait vraiment avec cette énergie, et on lui a servi, quoi. Et nous, c'était effectivement aussi, on s'est nourri de son énergie, parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup d'énergie aussi, quoi.
Sans transition avec Lio, on va tout de suite passer à ta pire galère en tant que patron de label. Quand on dit pire galère, j'aimerais savoir, en fait, parce qu'en fait on parle souvent des moments glorieux de la gestion d'un label, mais il y a souvent aussi beaucoup de down. Est-ce que toi tu te rappelles d'un moment, d'un coup de mou, d'un coup de down, un moment où tu as failli tout plaquer, ou à un moment c'était tellement n'importe quoi que tu t'es dit c'est à la fois génial et n'importe quoi ce que je suis en train de faire en tant que patron de label.
Oui, il y a eu de nombreuses emmerdes. Ça, c'est vrai qu'aussi souvent, les gens se rendent pas compte parfois des conneries auxquelles on doit gérer, mais particulièrement dans un monde numérique où là on a toute une série aussi de problèmes parfois qui sont complètement abstraits, mais qui sont des problèmes juridiques pénibles à régler par parfois des artistes qui sont un peu égocentrés. Alors j'ai cette anecdote qui est quand même assez amusante, sur le moment on rigolait pas, mais on a ce projet qui s'appelle UFO Goes UFA, je sais pas si tu te souviens de ce disque. Un disque en anglais, enfin produit par Kramer, donc un album un peu noise, garage punk. Et dessus il y a une chanson qui s'appelle The Supermarket is Full of Zombies, en parenthèse Zombie Nation. Et on voit défiler des courriers d'avocats d'Allemagne d'un DJ qui s'appelle Zombie Nation, qui réclame des sommes faramineuses pour l'utilisation de sa marque.
Quand on dit faramineuse, on parle combien d'argent ?
Oh, ici, on parlait quand même de... C'était par coût de 10 000 euros.
Ah oui, quand même. Ouais.
Répété. Voilà, visiblement, ce monsieur avait déposé le mot Zombie et Nation comme une marque sur tous les produits existants. Et donc, par de biais d'avocat, il faisait... Parce qu'il faut savoir qu'il y a des couleurs qui sont déposées. Si tu utilises un logo avec une couleur bleue et que le bleu est déposé comme une couleur d'une marque, tu pourrais très bien avoir un problème juridique. Donc, ça coûte cher en frais juridiques, etc. Et donc... On avait fait le calcul, le disque venait d'être pressé, on s'est dit, bah voilà, ça va nous coûter ce truc à régler avec lui, plus cher que ce disque, donc on va pilonner les disques et on va signer une lettre comme quoi on n'utilisera plus jamais de notre vie les mots zombie et nation un à côté de l'autre dans une chanson.
Et vous l'avez fait. Et donc ça s'est fini comme ça en fait, ça coûtait moins cher de détruire le disque que de le vendre.
Et de signer sur l'honneur que jamais je n'utiliserai Zombie and Nation dans une... Voilà, ça c'est l'industrie du disque aussi, il y a quand même plein de trucs comme ça.
Mais c'est quand même assez marrant avec le recul que des zombies aient attaqué une armée de frics quoi, je trouve que ça donnait presque un bon film quoi.
Ah oui, c'est vrai que c'était assez, mais bon.
Parlons de la deuxième vie de Freaksville dans les années 2010 et dans la foulée des années 2020 qui viennent juste de commencer. Comment toi tu... vie en tant que patron de label et en tant que producteur, en tant que musicien, le temps qui passe. Comment tu fais en fait pour concilier les débuts historiques, la fanbase, comment faire en sorte de la fidéliser, de la renouveler et que cela n'impacte pas tes choix artistiques. Comment on se renouvelle ?
C'est quand même difficile parce que nous on est un collectif vraiment de musiciens, on est tous vieillissants, donc les projets en fait solo qui sortent sur Freaksville étaient des projets liés quand même un peu à la famille, je dirais, quelque part. Ou alors en tout cas parfois avec des cousins sous-germains, je veux dire, hein. C'est le cas par exemple avec des gens comme Julien Gasque, April March, Aquaserge, enfin, des gens qui sont liés tout ça, mais qui sont donc renouvelés l'énergie et la créativité dans une époque qui est quand même remplie de musique aussi, c'est pas simple. On aime bien quand même avoir une sorte de label et de collection quand même là derrière, enfin, une certaine vision artistique. Or, le label doit quand même, la structure doit vivre, donc on est quand même aussi à proposer, je dirais, ça a été la grande transition dans les années 2010, c'est de proposer du service à d'autres. Donc de mettre un peu, que ce soit notre manière de faire, notre vision artistique ou créatrice, ou même rendre des services administratifs ou de distribution, etc., à d'autres artistes.
Tu t'es servi de ça pour renouveler une partie de roster Freaksville en t'inspirant de ce que tu distribuais par ailleurs ?
Alors oui, c'est-à-dire que d'un côté, c'est aller à la rencontre de nouvelles personnes, etc. Et parfois, dedans, on a des choses qui se passent, effectivement, parce qu'on a travaillé avec eux sur différentes choses. Et là, voilà, il y a à un moment donné un projet qui nous plaît vraiment et qui permet de renouveler le roster Freaksville, quoi. Et à côté de ça, bah, pour perdurer un peu sur le passé, bah, c'est quand même ressortir régulièrement des choses, les remettre, on espère toujours au bon moment, certains disques qu'on a fait dans le passé. Et donc c'est un peu les deux, quoi. On a relancé aussi une collection de musique instrumentale aussi. Étonnamment, le label, qui est au début assez francophile, est devenu beaucoup plus, pas anglophile, mais instrumental, ou en tout cas plus de projets en anglais, alors que la tendance générale va vers le francophone. C'est assez étonnant qu'on fait le mouvement inverse.
Oui, mais ça, c'est pas très étonnant quand on regarde l'histoire du label, finalement.
Voilà, c'est toujours là.
Tu parlais de Pierre Barou tout à l'heure, donc patron de Sarava, et il y a une citation qui est souvent associée à Sarava, c'est « Il y a des années où l'on a envie de ne rien faire ». Qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on a envie de rien faire en tant que patron de label, traduction, où il n'y a rien à signer ?
Bah, y a plein d'autres projets. Il y a des podcasts, il y a des expos. Enfin, on a aussi cette idée de créer du contenu de livres ou d'expositions. On a plein de choses toujours à faire. Et c'est vrai que parfois, bah, y a des choses qui nous... Soit on n'a pas l'énergie, on n'a pas la rencontre aussi. Je pense que c'est ça aussi. C'est souvent avec la musique, plus il y a de flux de musical, plus quand il y a vraiment une vraie rencontre artistique qui se passe entre les personnes, plus on est content et heureux. Mais c'est pas évident, en fait. Parce qu'il n'y a rien à faire, il faut à un moment donné que l'artiste ou la musique vienne à nous. Je pense que tous les gens qui sont un peu directeurs artistiques ou qui sont dans des labels comme de la taille de Freaks, etc., il y a besoin d'avoir, qu'on a presque l'impression qu'on a rencontré quelque chose qu'on peut apporter aussi, quoi. Mmh. C'est difficile à expliquer, mais sinon la musique s'empile et on peut évidemment sortir non-stop de la musique, il n'y a que ça pour le moment. Donc c'est comment on favorise cette rencontre-là, ça c'est un mystère. Donc évidemment si on ne fait rien, on peut attendre longtemps avant qu'elle arrive, mais en même temps, bon, c'est un peu plus proactif, on espère que ça se passe. Et bon, voilà, jusque maintenant, on a toujours eu de belles rencontres, en fait.
Ça nous amène à cette grande question qui va presque clôturer cet épisode, c'est la question perspective et enjeu. Donc perspective et enjeu, un nom de slide PowerPoint
ça.
Pour des gens en costume, mais qu'on va appliquer à Off the Record et savoir pour toi quelle est la fonction, puisqu'on en parlait tout à l'heure, d'une maison de disques ou d'une maison de risque, on peut appeler ça comme on veut, en 2023, pour toi, un label, à quoi sert-il, selon toi ?
Alors pour moi, ça sert essentiellement à raconter d'autres récits. C'est un peu con ce que je veux dire, mais on a tellement on entend tellement peu de voix un peu différentes de choses, il y a vraiment les grands... Je trouve qu'il y a beaucoup de récits qui sont toujours conformistes, quoi, je dirais, et on raconte toujours la même chose, en fait. Dès qu'il y a des voix, moi, des choses qui sont artistiquement un peu différentes, j'aime bien. Même si je suis pas d'accord, même si parfois ça me choque, même si j'ai envie de me dire « qu'est-ce qu'il raconte, c'est con, je suis absolument pas d'accord politiquement », mais je trouve que c'est nécessaire, quoi. Donc il y a quand même une notion politique quand même à faire de la musique, moi, je trouve.
Mais du coup, ça se... sans te brosser dans le sens du poil, ça se ressent dans le roster actuel de Freaksville, je trouve. Mais je pense à Man From Uranus, qui est un ancien, au fil MFU, donc, qui a travaillé pendant plusieurs années avec...
Vanishing Twin,
avec
ouais.
Vanishing Twin. Pas dire que c'était la tête pensante, ce serait faux, mais c'est quand même un énorme freak anglais. Je sais même pas quel âge il a aujourd'hui, mais on est vraiment dans la culture freak des années 60, 70 ou 70. Je trouve que ça se retrouve aujourd'hui dans tes choix artistiques. Peut-être plus qu'il y a quelques années d'ailleurs.
Oui, c'est vrai. Je pense que la période actuelle, elle est différente du début de Freaksville. Le début de Freaksville était assez politique aussi, puisque c'était l'idée de dire, voilà, allez vous faire foutre, on est libre, on fait ce qu'on veut, on les sort nous-mêmes, on n'a rien à vous demander. Ici, ben voilà, on résiste différemment dans une marée numérique, un flux numérique, en sortant des choses finalement qui n'ont pas de finalité à être, si ce n'est que c'est des propos politiques, artistiques et politiques. Enfin, je veux dire, voilà, des propos qui, des disques qui peuvent quand même un peu, pour ceux qui tombent dessus, qui ont la chance, se dire, ben voilà, il y a quand même quelque chose qui raconte l'époque différemment, quoi.
Pardon, cette question un peu psychologique, puisqu'on arrive à la fin de ce bilan.
Oui, quel bilan ?
Bilan de Freaksville. Après, t'as l'impression que tu as créé le Freaksville comme tu fais de la musique pour éviter d'être seul, finalement.
Oui, parce que je pense, moi, tu sais, j'ai jamais pensé les artistes maudits et tout ça, les grands créateurs. Moi, je crois pas que ça existe vraiment.
C'est très français, ça. Hein.
Je crois pas vraiment à ça. Je crois plutôt que quand tu fais un groupe, en tout cas, c'est vraiment une alchimie entre les gens, quoi. Et donc, je sais pas, j'ai aussi une personnalité qui... étonnamment permet de rassembler les gens sur des projets artistiques, que ce soit musical ou autre. C'est quelque chose, les gens me font confiance et me suivent dans des projets, je le vois, c'est quelque chose qui est un peu inné. Les gens ont confiance, se sentent quand même plus ou moins en confiance avec la structure, avec ce qu'on fait. Donc ça c'est plutôt un atout, quoi, je pense.
On en arrive à la question gimmick. L'émission s'appelle Off the Record. Off the Record en anglais, on va pas le traduire, les gens savent, on va quand même le traduire, mais c'est un petit peu la confession sous l'oreiller. Est-ce que tu pourrais nous raconter quelque chose que tu n'as jamais raconté à propos de Freaksville ?
Écoute, il y avait une tendance que j'avais initiée mutualiste à Freaksville, c'est-à-dire de créer un mutuel Freaksville. En gros, les musiciens me donnaient sur le compte une partie de leur cachet artistique afin de créer une caisse commune, une cagnotte, on pourrait dire. Mais l'idée a soulevé de nombreuses questions qu'on a arrêtées. J'essaie d'y revenir souvent, hein, c'est au cas où on ne rappelle pas, par exemple. On a eu un petit boom avec les masques, par contre, ça c'est un truc, merci le Covid. On a apprécié des masques qui étaient en fait assez légers, contrairement aux autres, donc pas trop de bonne qualité, mais donc beaucoup de gens nous en ont acheté parce qu'ils étaient respirables.
Oui, donc en fait ils ne protégeaient pas du tout.
Non, ils ne protégeaient pas, mais ça faisait effet quoi.
Eh bien écoute, Freaksville a un virus qu'il est bon de se refiler, on va dire. Merci pour ta présence, Benjamin, et merci pour ton témoignage. Et on se retrouve à très vite sur Off the Record.